Donc, chers amis, mon but est de vous parler d'une question qui nous préoccupe assez souvent. En tout cas, on l'entend dans le cadre des confessions. Le mal que je commets, dont je suis personnellement responsable, et le mal subi. Et quelquefois, nous avons de la peine à distinguer les deux. Alors, le premier point que je dois développer, c'est qu'effectivement, sous l'influence de la psychologie, nous comprenons mieux notre histoire, nous avons des éléments qui nous permettent de comprendre nos blessures d'enfance, nos relations avec nos parents, des personnes qui ont été importantes pour nous, dans le bien ou dans le mal quelquefois. Et tout cela c'est très utile pour nous permettre de mieux comprendre certaines de nos réactions, pourquoi nous nous comportons comme ceci ou comme cela. Mais le danger aussi c'est de tout enfermer dans ces explications-là. Et je pense à une de mes amies, par exemple, qui avait des soucis de famille. Et elle a eu toute une époque où elle disait « c'est de la faute de mes parents si j'ai ceci et cela ». Ses parents que je connais bien, qui sont des gens admirables, qui ne sont pas parfaits. Mais, donc il y a un risque un peu qui existe à partir du moment où nous nous connaissons mieux nous-mêmes, de rester un peu dans ces explications. Et alors il y a un peu une confusion entre le mal que nous avons subi et le mal qui a été commis contre nous, que nous commettons. Et ces dispositions psychologiques expliqueraient notre comportement et se verraient comme une sorte de conditionnement. Et on se dit qu'on n'est pas très libre, en fait. Vous voyez ? Donc tout l'enjeu, c'est justement qu'est-ce que j'ai subi et où est ma liberté ? Voilà. Donc ça, c'était un premier point. À la fois les bienfaits de la psychologie, et puis aussi ne pas nous enfermer dans ces conclusions, j'y reviendrai après, mais on peut rester dans une attitude un peu victimaire en fait. Voilà, je suis victime de l'éducation que j'ai reçue de mes parents, ou je suis victime de telle ou telle blessure de l'enfance, et en fait j'en sors pas trop. Donc on va essayer d'en sortir justement. C'est un chemin de conversion. Alors il y a une distinction qui peut nous aider justement, c'est une distinction que fait la théologie, mais qui est assez utile je trouve. C'est d'abord le mal de faute, donc le mal dont je suis personnellement responsable, qui est créé directement par moi. Par exemple, si j'étais petit, j'ai peut-être donné un coup de poing à une de mes sœurs parce qu'elle m'agaçait. Vous voyez, donc toutes sortes de situations que nous avons pu commettre. Et alors voilà comment le catéchisme de l'Église catholique précise ce mal de faute. Donc je vous donnerai le texte après, comme ça vous pourrez le conserver. Les anges et les hommes, créatures intelligentes et libres, doivent cheminer vers leur fin dernière, par un choix libre. Ils peuvent donc se dévoyer, c'est-à-dire quitter la route. En fait, ils ont péché. C'est ainsi que le mal moral est entré dans le monde. Donc le mal moral, ou le mal de faute, c'est celui dont je suis directement responsable. Mais il y a aussi le mal de peine. Et alors en fait, ce mal de peine, ce sont les conséquences de tous ces mauvais actes, de tout ce mauvais usage de notre liberté. Et donc, ça entraîne un certain désordre dans le monde. Alors, Mgr Scherrer emploie souvent une image que je trouve assez parlante. Il l'utilise pas mal pour les jeunes. Il dit en fait que ça arrive quelquefois quand on est enfant, qu'on casse un objet précieux à la maison. Par exemple, un vase ou un joli miroir. Vous voyez, on joue au ballon et puis le ballon tombe dans un carreau et ça se casse. Alors nous allons demander pardon, et donc ce pardon nous est donné. Donc la culpabilité est enlevée, nous reconnaissons nos travers, nous reconnaissons nos fautes. Donc ça c'est le mal de faute en fait. Mais le vase ou le miroir reste brisé, donc il faut le recoller. Et ça c'est le mal de peine. Et quelquefois, la réparation de ce mal de peine peut être très 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 longue. Je ne sais pas, moi par exemple, nous avons eu une dispute avec un voisin pour une contestation sur un terrain. Par exemple, on avait une branche de cerisier qui dépassait chez le voisin. Alors ça a généré une dispute, peut-être qu'on est allé même jusque devant les tribunaux. Ou alors ça s'est résolu simplement, voilà, on s'est arrangé à l'amiable. Donc on coupe la branche, donc le mal de peine, de faute pardon, parce qu'on n'avait pas fait attention, on avait négligé l'entretien de la maison. Le mal de faute est arrangé, mais il reste le mal de peine, parce qu'avec notre voisin, Voilà, il reste, on s'est arrangé, mais enfin, il reste quand même quelque chose qui traîne un peu, vous voyez, qu'il faut petit à petit expurger. Donc, je trouve que cette distinction entre mal de faute et mal de peine, elle peut nous aider à comprendre le mal que nous commettons, ou quelquefois que d'autres personnes ont commises sur nous. Par exemple, nos parents, parce qu'ils n'étaient pas parfaits, ils ont fait quelquefois des erreurs d'éducation. Alors après, quand on est adulte, nous, on encourage beaucoup les séminaristes à aller voir leurs parents et à reparler de cela, vous voyez, pour qu'il y ait un pardon qui soit donné et changé, des deux côtés, quelquefois, de manière à ce que le mal de peine, vous voyez, il n'y ait pas quelque chose qui traîne, une blessure que l'on garde pendant un certain temps. Alors, ce mal de peine est issu de faute et il peut créer ce que Jean-Paul II avait appelé dans un de ses écrits, donc je vous laisserai le texte, il avait appelé ça des structures de péché. Parce qu'il y avait toute une discussion en 1986 à Rome, il y avait un synode sur justement le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, et il y avait toute une discussion sur y a-t-il ou non des péchés sociaux. C'est-à-dire en gros des péchés qui viennent de la société et qui s'imposent à nous. Donc c'est quand même une idée assez proche. Et en fait, assez finement, vous verrez, le pape Jean-Paul II dit que la notion de péché social est une notion dangereuse parce que le péché, c'est toujours quelque chose de personnel. Donc parler de péché social, c'est un peu ambigu parce que là aussi, beaucoup de gens nous disent, bah, c'est pas moi, c'est la société qui fait que, etc. Et le pape Jean-Paul II, très finement, dit que par contre, il existe des structures de péché. Vous pouvez penser par exemple à la drogue dans des pays comme la Colombie ou le Brésil, des pays pauvres, où les gens, en fait, quand ils sont pauvres et qu'ils n'ont rien à se mettre sous la dent, sont très très vite impliqués dans des trafics de drogue, dans le vol, etc. Parce que c'est souvent le seul moyen de gagner sa vie. Donc ces structures de péché, ce sont des mal de peine qui se sont coagulés jusqu'à former une espèce de structure dans laquelle les gens sont presque contraints d'entrer. Alors bon, c'est jamais fatal, mais vous voyez, en fait, il y a une telle situation de pauvreté que la conscience est abîmée et les jeunes sont poussés au mal. Vous pouvez penser à la prostitution, penser à quantité de maux qui touchent le monde actuel. Mais vous voyez, la formulation est importante parce que péché social, c'est pas très juste. Le péché, c'est toujours une responsabilité personnelle. Par contre, les structures de péché, ce sont des choses qui peuvent introduire en nous certains conditionnements qui font que les gens sont presque plus très libres, en fait. Alors nous, on le voit dans la confession. Il y a des gens qui viennent s'accuser, mais on sent qu'il y a un manque de liberté, qu'il y a tout un travail à faire, et il faut le faire en confession. Il faut aider les gens à comprendre un peu mieux, justement, comment ils sont rentrés là-dedans et malheureusement, comment ils ont du mal à s'en sortir. Et puis le dernier point, puisque j'avais juste une dizaine de minutes, donc c'est assez court, le dernier point, c'est une preuve de maturité que d'assumer et d'être capable de dire j'ai péché. Pensez dans la Bible au roi David avec Bathsabée. Donc il a vu cette femme, il la convoite, il sait qu'elle est mariée, il s'arrange pour se débarrasser du mari, même si c'est un peu compliqué. Puis finalement, il va s'en débarrasser définitivement. Et donc, il arrive à ses fins. Et le prophète Nathan, alors vous voyez, il y a tout un calcul, il monte tout un tas de choses pour obtenir cette femme, pour éloigner son mari, et puis finalement pour le faire tuer. Et le prophète Nathan, au nom de Dieu, vient dénoncer le crime du roi, avec l'histoire du, vous savez, de l'homme qui avait qu'une pauvre petite brebis. Il y avait un gros propriétaire à côté et en fait il débrouille pour lui voler sa brebis. Et au début, en fait, David est tellement dans son amour passionnel qu'il s'en rend pas compte. Et c'est le prophète qui lui fait comprendre. Et à ce moment-là, David le reconnaît et il dit, j'ai péché. Et il aurait écrit le psaume 50, donc que l'on dit à l'office tous les vendredis matins, prends pitié de moi, Seigneur, de ta grande miséricorde, justement comme une forme d'expiation. Mais vous voyez, c'est une forme de maturité humaine que d'assumer et de dire j'ai péché. Et au contraire, c'est une preuve d'immaturité, disent les psychologues, mais enfin je pense qu'ils ont raison, de rejeter sur les autres et de ne pas assumer et d'être dans une sorte d'attitude victimaire. Puis alors, on est dans une société où la victimisation est extrêmement valorisée. Donc, si vous n'êtes pas content, vous allez dire n'importe quoi dans les médias, ça sera répété partout, et vous êtes une victime du système, etc. Malheureusement, cette attitude victimaire, c'est une attitude de profonde immaturité. Vous voyez? Donc justement, l'Église nous encourage à bien distinguer les deux, le mal que nous commettons, ou quelquefois qu'on a commis sur nous, et le mal subi. Et ne pas rester dans une espèce de confusion, parce que quelquefois les gens sont dans la confusion entre les deux, alors ils se confessent, mais ils ne se confessent pas vraiment, ils nous demandent un éclairage, mais ce n'est pas clair pour eux. Vous voyez, déjà essayer un peu de clarifier dans notre vie les notions, ça peut être quelque chose de très utile. Non seulement en psychologie, mais aussi dans notre vie humaine et dans notre progrès spirituel. 11 minutes, je m'arrête.